Deutsche Welle. Droits et libertés.
Il y a des thèmes qu'on aimerait évoquer moins souvent. Nous parlions il y a peu dans ce magazine de violences policières et dans un autre numéro du combat des Noirs américains en faveur de l'égalité des droits entre tous les citoyens des États-Unis. Or, depuis plusieurs semaines, le pays fait reparler de lui à cause de tensions sociales et raciales ravivées depuis l'assassinat d'un jeune Afro-américain par un policier dans le Missouri. Retour sur ce que les émeutes de Ferguson nous disent des discriminations au sein de la société américaine d'aujourd'hui. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous.
Le 9 août 2014, un jeune homme de 18 ans, Michael Brown, est abattu par un policier à Ferguson, dans l'État américain du Missouri. La police prétend que Michael Brown avait tenté de voler plusieurs paquets de cigarillos dans un magasin et qu'il se comportait de façon agressive quand le coup de feu qui l'a tué est parti. Un témoin oculaire a raconté une toute autre version de la scène. Le jeune homme aurait été tué alors qu'il se rendait chez sa grand-mère. Et au moment où le policier a tiré, Michael Brown avait les mains en l'air.
Ce qui est certain pour l'heure, c'est que la mort du jeune garçon a provoqué des émeutes dans les rues de Ferguson contre le racisme ambiant aux États-Unis. Les manifestants reprochent notamment à la police de ne pas traiter de la même façon les citoyens en fonction de leur couleur de peau. Ferguson, c'est une banlieue de la ville de Saint-Louis. La ville compte 21 000 habitants, dont deux tiers de Noirs. Pourtant, le maire et cinq conseillers municipaux sur six sont blancs, eux. Dans la police municipale aussi, la proportion de blancs est écrasante. Sur les 53 agents de la ville, seulement 3 sont Noirs. Et le cas de Ferguson n'est pas une exception. 80% des Américains noirs interrogés estiment que la mort de Michael Brown soulève de nombreuses questions sur le racisme au sein de la société américaine. Seuls 37% des blancs interrogés voient quelque chose de révélateur dans la mort du jeune homme.
Je pense que Ferguson illustre une nouvelle fois quelque chose qui se répète dans le pays ces dernières années et décennies.
C'est ce que dit Lexer Kouemi, porte-parole de la Conférence pour les droits civiques et humains, qui fédère plusieurs organisations dédiées à la défense des droits civiques. Plusieurs cas de policiers qui n'ont pas été sanctionnés après avoir tué des Noirs ont été recensés. La mort du jeune Trayvon Davis est encore dans toutes les mémoires. Le policier qui a abattu cet adolescent de 17 ans en février 2012 a été acquitté un an plus tard. À l'époque, devant l'émoi suscité par cette affaire, le président Barack Obama avait déclaré, je cite, « Moi aussi, j'aurais pu être Trayvon Davis ». Il n'existe pas de statistiques fiables sur le nombre de bavures commises par la police américaine, qui a tendance à avoir la gâchette facile, mais la revue Mother Jones, de centre-gauche, a décompté ces 4 dernières semaines 4 cas de Noirs non armés abattus par des policiers aux États-Unis. Le sociologue Darnell Hunt, directeur du Centre d'études afro-américaines de l'Université de Californie, constate
« On n'entend jamais parler d'adolescents blancs tués par la police alors qu'ils n'ont pas d'armes. »
Et selon le sociologue, ce n'est pas un hasard.
Cela reflète une opinion répandue selon laquelle les Noirs, surtout les hommes, représentent une menace que la police doit contenir, quitte à user de la force en toute impunité.
À Ferguson, l'année dernière, 92% des perquisitions et 93% des interpellations d'automobilistes impliquaient des Noirs. Pourtant, les chiffres de la police montrent que dans 34% des cas, les policiers constatent une infraction en contrôlant des Blancs, alors que ce n'est vrai que pour 22% des individus Noirs contrôlés. Et cet exemple tiré du Missouri n'est pas isolé. À New York, 87% des contrôles de routine visent des Noirs ou des Latino-Américains. Lexa Kouemi.
Les mères et pères d'enfants noirs ne peuvent jamais être sûrs que leurs fils ne seront pas importunés, interpellés, voire brutalisés par la police. Dans beaucoup de nos communautés noires, les parents doivent vraiment s'assurer que leurs enfants connaissent bien leurs droits et la façon dont ils doivent se comporter avec les agents pour survivre à un contact avec la police.
La Conférence pour les droits civiques et humains réclame donc une interdiction des contrôles aux faciès, un encadrement plus étroit des activités de la police par le ministère de la Justice, mais aussi une meilleure formation des policiers.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me
dire. Le sociologue Darnell Hunt estime pour sa part que ces bavures répétitions sont en fait le reflet d'inégalités profondes de la société américaine.
Nous avons un président noir et des superstars noires comme Beyoncé ou Jay-Z, mais les conditions de vie de la grande majorité des Afro-Américains s'est dégradée par rapport à ce qu'elle était il y a 15 ou 20 ans.
Encore quelques chiffres, il y a deux fois plus de chômeurs chez les Noirs que chez les Blancs, et le revenu moyen d'une famille noire aux États-Unis est un tiers en dessous de la moyenne nationale. Il y a aussi trois fois plus de Noirs qui vivent dans la pauvreté et quatre fois plus de Noirs condamnés à des peines de prison que de Blancs. Pour Darnell Hunt, les médias américains ont beau avoir tendance à véhiculer l'idée que le temps de la discrimination est révolu, les cas Michael Brown ou Trayvon Martin montrent bien que quelque chose cloche toujours aux États-Unis. Suite à la mort de Michael Brown début août, un internaute a lancé une campagne sur les médias sociaux. Tyler Atkins, c'est son nom, est un jeune noir. Il a posté deux photos de lui sur Twitter. La première le montre en t-shirt noir avec un foulard sur la tête. Et sur l'autre, il porte un costume plutôt élégant et tient un saxophone. La légende de ces deux photos était « Et si on m'avait flingué ?» Laquelle de ces photos les médias auraient-ils choisi pour illustrer les articles sur moi ? Une campagne qui connaît pas mal de succès et qui veut faire réfléchir aux stéréotypes, parfois inconscients, dans le traitement de l'information. La société américaine a-t-elle vraiment changé depuis le combat des Noirs pour l'égalité de leurs droits ? C'est ce que se demandait la presse allemande, datée du 20 août dernier. Un petit rappel, signé Aude Kenspittel.
Les policiers américains ont souvent affaire à des criminels qui n'ont pas un petit couteau dans la poche, comme en Allemagne, mais plutôt un fusil d'assaut sur le siège arrière, rappelle la Süddeutsche Zeitung, ce qui a de quoi les rendre nerveux. Bien entendu, les membres des forces de l'ordre doivent pouvoir se défendre, mais il est absurde de fournir aux policiers des petites villes des chars blindés et des armes de guerre. Une police qui s'arme ainsi inspire plus de peur que de confiance aux citoyens. Un président noir, un ministre de la justice noir, ainsi que de nombreux autres hauts responsables. Pour Die Welt, les États-Unis semblent être à des années-lumière de l'époque de John F. Kennedy, à laquelle les Noirs ne pouvaient que rêver d'être un jour plus qu'une minorité maltraitée, considérée comme criminelle et peu éduquée. Cette impression est à la fois vraie et fausse. Beaucoup de choses ont changé, énormément même, mais pas partout et pas pour tout le monde. Et la méfiance mutuelle d'autrefois est souvent restée. Même avant son entrée en fonction, Obama a tenté de se positionner non pas comme le premier président noir, mais comme le premier président de l'Amérique post-raciale, écrit la Stuttgarter Zeitung. Cette belle utopie qui a enivré tout le pays au moment de sa prestation de serment a vite été rattrapée par la réalité. Et pour beaucoup d'Afro-Américains, elle a complètement disparu avec la mort de Michael Brown.
Mais qu'en est-il en Allemagne ? Comment est-ce que les médias parlent des minorités ethniques ? Eh bien, c'est pas très reluisant, comme le souligne Konstantina Vassiliou-Hens, qui préside un regroupement de jeunes gens qui travaillent dans les médias.
Pour prendre l'exemple des faits divers criminels, eh bien, quand on sait que l'auteur du méfait n'est pas allemand ou pas allemand de souche, souvent on précise son origine. On ne dit pas Ahmed H. de Cologne, mais le Turc Ahmed H. de Cologne. Cette précision passe souvent inaperçue, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça renforce les préjugés à l'encontre de l'ensemble des personnes issues du même groupe. Les gens font des amalgames dans leur tête qui mènent à l'exclusion.
Et Tahir Dalla, militant de l'initiative des Noirs d'Allemagne, dresse le même constat.
Dans les têtes, les Noirs sont toujours associés à des thèmes comme le trafic de drogue ou l'immigration clandestine. Quand les médias parlent de mouvements des réfugiés, ils illustrent les articles par des photos de Noirs ou d'Africains. Pourtant, la plupart des réfugiés qui arrivent ici ne sont pas originaires des pays africains.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha-cha, de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu.
C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi et à Günther Birkenstock et Dennis Stute pour les sons. Pour écouter cette émission ou les précédentes éditions de Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.de/français, rubrique Nous Podcast, et pour nous écrire une seule adresse, français@dw.de, sans la CDI à français comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.
Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Spectateur du désespoir.
La vie de rêve.